Donc l'idée pour moi, c'était de voyager un petit peu comme ça dans les questions qu'on se pose au premier degré. Et comme c'est des questions qu'on puisse, puis je savais que de toute façon on ne serait pas dans un grand local, qu'on puisse vraiment le faire en discutant ensemble et à la bonne franquette. Tout est en. Pour moi, l'idée, ce serait de se balader comme ça, tout simplement, dans des sites. Je m'étais donné comme ça une douzaine de points, ce qui ferait maximum 5 minutes par point, donc ça va être un petit peu difficile. Mais dans l'idée, comme ça, de retrouver ma bonne place, même par rapport à hier, c'est-à-dire celle du bricoleur, et où est-ce qu'on en est dans nos bricolages. Et l'autre point d'approche pour moi, ce serait revenir progressivement à la littérature. C'est que c'est des chantiers qui sont, enfin des discussions qui sont amorcées même avec Bertrand depuis plusieurs années sur cette base du MT2 qui s'était fondée d'abord sur les arts numériques et qui reste un outil essentiel pour tout le monde. En même temps, il y a toujours eu des tas de littéraires qui ont traversé cet endroit-là. Et je pense que peut-être le vrai enjeu, c'était hier posé à la fin de l'intervention de Gilles Bonnet, qui est ici à l'UDEM, c'est-à-dire à quel moment nous-mêmes, pour interroger nos pratiques d'écriture, ne pas fonder nos questions sur le territoire de leur migration numérique, mais les interroger depuis nos usages ou depuis ce qui naît numériquement. Mais il ne faut pas que je m'embarque dans trop ces trucs-là. Par contre, pour moi, il y a vraiment une interrogation aussi à fonder sur la logique des usages de photographie ou des usages d'images numériques, dans la mesure où ils ont une antériorité de 10 ans sur les propres chambardements du livre. Et pas que les mutations y soient plus violentes, mais je crois que ce qui s'y modélise peut nous permettre de formaliser des questions littéraires en dehors, comme ça, de cette espèce de projection verticale du livre. C'est pour ça que, comme point de départ, parce qu'en ce moment, je suis sur un boulot où Lovecraft m'intéresse. Mais ça fait partie de ce que je voulais dire. Et puis, donc, on est quand même déjà maintenant dans le vrai boulot, en sens où c'est quelqu'un, donc 1890-1937, qui n'a jamais publié de livre, hein, et qui, dans cette période comme ça du début du XXe siècle aux USA, si vous ouvrez le supplément littéraire du Times Magazine, vous trouvez des pages entières sur le dernier auteur reçu à l'Académie française, ou la traduction américaine de Anatole France en pantoufles. Mais tous ces jeunes auteurs américains qui se confrontent à la ville, aux trucs de voyage, à des révolutions scientifiques, sont systématiquement écartés comme ça de cette instance de reproduction symbolique. Elles trouvent leur chemin comme ça dans les magazines. Bon, on va pas partir sur Lovecraft, mais ce qui m'intéresse, c'est que ce type a une pratique littéraire complètement intense, complètement documentée. Il laisse 30 000 lettres à peu près au minimum. On a ses carnets quotidiens, pas important. Simplement, dans un de ces boulots que je fais, c'est un espèce d'agenda qui tient en année 1925, où il raconte tout ce qu'il mange, qui il voit, quelle promenade il fait, à quel endroit où on a ses heures d'écriture, ses heures de lecture, tout ça. Et pour recontextualiser ça, d'être obligé de repasser par le New York de 1925, où la mutation, où les mutations techniques sont considérables. Ça va par exemple les premières expéditions en Antarictique en y emmenant des avions, la traversée transatlantique par exemple de Lindbergh n'est pas encore opérée, mais en 1925 c'est la première fois où on arrive à transmettre une image à distance par télécommunication à San Francisco, à Chicago. Pareil, je ne veux pas développer ça. Mais dans ce travail, besoin d'aller passer par de la documentation. Et le premier point que je voulais juste passer comme ça, c'est regarder comme c'est moche. C'est pas grave que ce soit moche en l'occurrence. On est à la National Library, à la Public Library de New York. Et c'est, ils ont juste mis ça dans ces, dans les. Ouais, et puis faut, là maintenant, moi, il faut que j'utilise juste ces trucs-là sans m'insérer dedans. Ce qui m'impressionne, enfin, pour moi, j'ai choisi ce truc-là parce qu'il y a quelques mois, donc la Public Library a inséré massivement des images. Massivement, ça veut dire qu'on a 30 000 photographies de New York entre 1930 et 1970. En tant que tel, on est dans des choses de documentation, plus vous voyez ces espèces de graphismes qui sont complètement nuls, plus de dire on donne libre accès et on permet d'imprimer, etc., mais on le met quand même en tout petit pour pas que les gens en profitent et fassent du business avec. On a un contexte aussi comme ça qui est tout parasité avec tous ces trucs-là. La place qu'occupe la photo par rapport à. La place qu'occupe tout ce baratin, c'est des choses qui ne sont pas essentielles, mais qui pour moi impliquent énormément de choses dans la lecture et la présence numérique du texte à l'écran. Et c'est vers ça que je voudrais cheminer. Juste pour moi, ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est que d'une part, dans notre documentation au réel, on a affaire, et c'est exactement pareil pour l'idée de bibliothèque générale, l'idée d'accès global au livre, à une profusion et enfin, quelque chose qui peut être quasiment considéré comme exhaustif, c'est milliers d'années, milliers de photographies pour entre les années de 1920 et 1930, par exemple. Et en même temps, donc, enfin, que je trouve bien mes appuis et qu'on puisse. Cheminée. Ce qui est fascinant là pour moi et qui nous interroge aussi pour le livre et notre usage des bibliothèques, c'est que l'accès à la documentation dans le réel se reconstitue rétrospectivement. C'est-à-dire, on invente, en même temps qu'on invente, qu'on documente notre présent, on refabrique une sorte d'accessibilité rétrospective et on constitue une bibliothèque à rebours. Mais je ne veux pas m'attarder sur une autre question, mais en même temps, pour moi, c'est ce genre de concept comme ça qui est très curieux à examiner en soi-même comment ça se déplace. C'est-à-dire que l'idée de bibliothèque ne soit pas comme ça un catalogue, comme par exemple. Vous savez, à Paris, on a la Bibliothèque nationale de France avec un architecte qui a eu ce concours lancé par Mitterrand simplement sur une idée. On va mettre quatre livres géants qui se regardent près de la Seine, ce sera très beau. Et en même temps, pas du tout penser que les réserves, en fait, elles sont au quatrième sous-sol et ces tours, comme il y a plein de soleil et de lumière, à l'intérieur, ils ont été obligés de rebâtir des faux murs en bois d'un mètre d'écart. Et donc, enfin, tout est aberrant, et le gars avait prévu ni chiottes, ni salle de photocopie, ni. Bon, maintenant ils en ont rajouté à la place de ça. Bon, des salles de bain. Je veux pas, je vais bien essayer de mieux contrôler mon truc. Mais cette idée, pour moi, vraiment là est importante, c'est-à-dire comment la rapidité avec laquelle on a dû passer de l'idée d'une bibliothèque matérielle, quantifiée, solide et dénombrable au fait que la documentation même passée devient quelque chose comme ça qui se réinvente au fur et à mesure. L'autre, juste comme ça, si je voulais prendre ça comme point de départ, donc, dans ces choses, dans ce même ensemble, vous trouvez des photos comme ça, même si celle-ci a été du coup à remigrer dans un site qui l'éditorialise, c'est aussi une grande question, c'est-à-dire que tout d'un coup, une photo prise à cette masse d'archives qu'on découvre là, qui est une photo parfaitement documentaire, c'est-à-dire les ouvriers qui repeignent à l'anti-rouille les câbles du Brooklyn Bridge, produit une lecture, et la lecture interroge la ville comme celle-ci, qui est évidemment l'archétype le plus connu, mais si on remonte à celle-ci, une photo qui émerge comme ça par l'accès à une base purement documentaire devient pour nous un objet comme ça d'une symbolique qui est complètement esthétique. Et ça, pour moi, c'était aussi ça un petit peu l'introduction, c'est à quel moment dans nos pratiques de littérature les pratiques de fiction qui se sont constituées à chaque époque selon, comme ça, des figures de la littérature. Madame Bovary refabrique un village normand, refabrique une pharmacie, refabrique les transports, les fiacres et tout ça. Et en même temps, quand notre rapport au réel se transforme en produisant, comme ça, de lui-même par le numérique, sa propre documentation, à quel endroit ce rapport au réel peut se débarrasser de la fiction et devenir en lui-même le même point, la même visée ou la même cible ou le même point de fusion esthétique, comme ça. Mais de toute façon, si vous n'êtes pas content, vous pouvez déjà partir parce que ça va être que des idées en vrac, comme ça. Mais en même temps, là où pour moi serait. Je réinsiste avec ce mot bricoleur là qu'on nous a envoyé hier dans le carré sémiotique et non sémantique, mais tout ça dit avec le sourire, à quel moment dans notre point zéro comme ça de travail, il y a le deuxième que j'ai pris dans cet exemple-là, c'est un type que probablement vous ne connaissez pas, il s'appelle Eric Tabouki, c'est un photographe. On va tout de suite aller le chercher sur sa page Facebook. Qu'est-ce qu'il fait ce Tabouki, qui est photographe professionnel? Il amorce ici, sur sa page, on a des. Ben, je suis déjà ici, sur une page qui s'appelle Album. Vous connaissez le fonctionnement de Facebook. Il les classe comme ça, par Pastoral Graffiti, Hunting, et Mirador de chasse en Lorraine. Quelle importance, qu'est-ce qu'on s'en fiche des Miradors en Lorraine? Et en même temps, tout d'un coup, cette gigantesque base comme ça d'images qui n'est pas dénombrable, parce que quelqu'un se propose de l'éditer, d'une part, ça reste comme ça, non pas un objet unique, mais une collection, c'est-à-dire on propose des collections à partir de masses qui, elles, ne sont plus dénombrables. Et là, donc, l'idée même d'éditorialisation redevient comme ça une possibilité de s'approprier, c'est-à-dire que on fabrique dans notre rapport de lecture, notre rapport d'usage de web, des ensembles comme ça qui participent de choix et de collections, et on remplace la masse profuse, comme les 30 000 tout à l'heure de New York, par une intervention qui, elle, nous. Pareil, je ne veux pas m'attarder, je laisse les idées en l'air. Et ce Tabouki, ça fait pour moi à peu près 8 ans maintenant que je le vois agir sur Facebook et tous les jours proposer une dizaine de choses comme ça. En tant que tel, ça n'a pas d'importance. Par contre, est-ce que l'idée de catastrophe nous concerne par rapport à même l'héritage de la tragédie grecque, par rapport à nos stratégies de la fiction, par rapport à comment appréhender le flux permanent d'informations, de faits divers qui nous frappent, et en quoi, dans ces images qui font sensation, ce genre de choses peut signifier dans notre. Je ne veux pas. Je répète 4 fois qu'à chaque fois, je ne veux pas pénétration. Ça, le truc, mais. Voilà le genre de folie de Stabouki. Par contre, pour moi, là encore, ce genre de question en l'air que je voudrais lancer ici, à quel moment dans notre. J'ai perdu l'idée en l'air que je voulais lancer. Ce type est photographe. Là, on ne voit pas son travail. À quel moment, pour nous tous, le quotidien du travail, pareil pour l'écriture, est systématiquement d'aller comme ça, documenter, investiguer, appeler le réel, évidemment avec notre expérience quotidienne directe, mais en quoi notre exploration web du réel participe de cette exploration directe? Et en quoi, dans nos gestes comme ça, parce que lui, là, il ne propose pas. Puis je ne vais pas aller, on va voir après un autre exemple de photographe. En quoi là on n'est pas dans son travail, mais en quoi il rend partageable le chemin par lequel lui, dans son travail, constitue qu'une image va être sa création photographique. Le mot création est peut-être en trop. Je laisse Tabouki où il est. Mais pour moi, c'est ça aussi, ces questions, par exemple, qui ne sont pas de notre vocabulaire et de notre prérogative, qu'on est big data, smart data ou smart data, je ne sais pas comment tu dis, mais en quoi appréhender, cette migration vers des objets non dénombrables et des profusions confuses, Le rassemblement comme ça, des gestes de chacun, de constamment éditer, proposer, devient signifiant et intervient dans notre propre travail. Je passe tout de suite au suivant, comme ça je risque pas de dire trop de bêtises. Meriol Lehmann, je pense que quelques-uns d'entre vous, au moins, si c'est pas tout le monde le connaît, c'est un Suisse, mais il y a très longtemps qu'il vit à Québec. Il est responsable d'un centre d'art et évidemment photographe. Son site, voilà, et bon, on est pas mal à le considérer comme un photographe majeur, avec aussi cette spécificité de ce continent que, dans ce cas-là, c'est plutôt acheter, buy, que c'est plutôt l'Amérique anglophone qui permet à un artiste d'être photographe aujourd'hui. Là, on est dans un site fixe, avec ça, j'y reviendrai tout à l'heure sur la littérature, avec sa propre adresse. Et puis, on peut entrer dans des collections qui sont son travail. Voilà, c'est un travail un peu ancien sur les usines à papier québécoises. Je ne veux pas parler de la question de Meriol en lui-même. Pour moi, là, n'est pas essentiel. Même si, du point de vue de la photographie, ce type, c'est un des, ils sont pas si nombreux dans la photographie contemporaine à s'être installé un travail aussi remarquable que ça. Ce qui m'intéresse, c'est là. C'est que si je reviens à ma page de truc. Là, donc, on a le site et l'architecture du site se fait d'après les expositions, d'après les phases biographiques de travail successives qu'il a eues, sur des thèmes. Et par contre, qu'est-ce que c'est que cet outil-là? Là, on est non pas dans quelque chose dont il est propriétaire, meriollehmann.tumblr.com. Du point de vue paratexte, on n'a rien, il y a son nom qui se met ici. Et par contre, ces photos, vous voyez qu'à côté des autres, elles sont pourraves parce que c'est soit au téléphone de la documentation, soit directement issues de son appareil et non pas des tirages. Et donc, on n'est pas dans quelque chose d'éditorialisé, on est dans le carnet de travail, on est dans ce qu'il a photographié avec son tripode et son Lumix dessus, avant de passer les 4 heures ou les 5 heures de Lightroom. Qui feront de cet objet soit un tirage print, soit un tirage d'expo. Bon, pareil, je laisse un petit peu ça en vrac, pardon, pas en vrac. Simplement des hashtags, simplement un nom de lieu, je ne sais pas où c'est Giffard, mais vous devez savoir. Et en même temps, un truc qui est tout simplement important aussi, la date. C'est-à-dire que Tumblr, tout d'un coup, on a l'activité au quotidien du photographe dans ses cheminements et ses. Important ou pas, je sais pas. Pour moi, où je voudrais arriver aussi, je continue encore les trucs de Meriol. C'est-à-dire, si vous allez sur son site, vous ne trouverez pas cette page-là qui est Flickr. Par contre, si vous allez sur Flickr et que vous cherchez Meriol Lehmann, vous tomberez sur ces trucs-là. C'est que Flickr a révolutionné complètement la photographie, puisque c'est des réseaux, là encore, avec des hashtags, avec des questions de partage, mais où on peut mettre massivement, c'est-à-dire non pas, par exemple, la série des 12 planches qui seront l'exposition des usines à papier et le travail qu'il en a fait, mais en même temps la masse infinie de chaque fois où faisant un voyage, si j'ouvre par exemple la page 5 ou n'importe quoi au hasard, où je vais tomber sur une série, après je ne veux pas perdre de temps et tout ça, mais où on va retrouver, contrairement au Tumblr, qui est une espèce de carnet où l'itinéraire et la marche de Meriol, là par contre on est en Europe visiblement. Je suis mal tombé, mais où on a comme ça l'accès à la masse totale de son travail et de. Pourquoi je m'embarque avec ça? Juste pour ces questions-là. Donc, ces trois étages, le site officiel, le carnet chronologique, l'accès total à la masse de trucs. Si on regarde en même temps sur Facebook et que je cherche Meriol Lehmann. ça se recoupe pas non plus avec cet univers, puisqu'on a là, toujours les jeux de choses comme ça. On a des choses, celle-ci, elle est à la fois sur son Instagram, parce que j'ai regardé tout à l'heure, et à la fois sur son Tumblr, mais en même temps, il y a ses positions politiques, mais ça ne me regarde pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite, tout ça. Je veux juste te dire qu'on a une typologie de l'artiste, Gilles attaquait hier sur ce mot artiste et tout ça, qui est complètement évidemment en rupture avec ce qu'on pouvait imaginer de l'activité d'un photographe internationalement reconnu il y a 10 ans, avec l'accès comme ça à ce millefeuille de strates différentes. Est-ce qu'on peut imaginer un quelconque auteur de littérature aujourd'hui pour lesquels l'étage, par exemple, qui serait le livre imprimé, l'étage qui serait le carnet de recherche ou le truc en cours d'élaboration, l'étage qui serait la masse, bon, et puis après, je ne vais pas développer plus parce que, évidemment, l'analogie s'arrête. Mais en quoi ce genre de travail, justement, nous oblige à ce truc sur lequel on a buté souvent pendant 2 jours? Qu'est-ce qui différencie un écrivain d'un autre sur un truc comme ça? Ben, je laisse ouvert. Point 4, et j'avance quand même. Pareil, juste comme ça avec des exemples, et je ralentirai un peu tout à l'heure quand on sera plus proche des sites littérature. Là, chez Mériol, on était resté à quelque chose d'ultra classique en même temps, ou est-ce que c'est. J'en parlerai tout à l'heure de. Qu'est-ce qu'on est dans la préhistoire avec tous ces machins-là? Je reviens juste une seconde sur son Tumblr, par exemple. Si on scrolle, on a un chemin infini parce qu'il est un espèce de déroulé chronologique temporel. Et il n'y a même plus, vous voyez, il n'y a même plus de question de page. C'est-à-dire qu'à mesure que je descends, la page se régénère. Mais elle est constituée en même temps d'incréments qui, chaque fois, sont une image unique, une image arrêtée, qui est le photographe déclenchant, immobile, par rapport à un cadre qu'il a décidé et un arrangement de lumière qu'il décide aussi. Ces choses-là, bah, par exemple, des photographes s'en émancipent. Ils sont, évidemment, ils sont pas tout seuls. Je pars sur Philippe de Jonquière. Qui est un type qui, depuis, il a eu la chance en France d'être balancé dans son école d'art de quelque chose, je ne me rappelle plus laquelle, dans la fin des années 80, il doit avoir 50 maintenant, Philippe, d'être envoyé à Chicago et de découvrir très tôt des usages numériques. Ce type-là estime que depuis une vingtaine d'années, il a toujours son icône en bandoulière et qu'il a fait environ une photo toutes les 20 secondes. Et comme il dort quand même un petit peu la nuit, même s'il a des gros problème d'apnée, tout ça, on s'en fiche. Non, mais il dort appareillé, c'est un crève-cœur et tout ça, et je pense que sa relation au sommeil, ou à l'interdit de sommeil, compte dans cette espèce de travail continu, comme ça, de filmage. Comment vous faites ce truc-là? Donc, par exemple, là, je prends l'année 2014, parce qu'il change tout le temps ses expériences, et. Voilà ce que ça donne, son journal photographique. Et là encore, si je descends la page, toutes les photographies de l'année vont se régénérer en permanence et en continu. Et en même temps, lui, il propose des modes de lecture où ce qu'il appelle ces avalanches peuvent se faire sous différents incréments. C'est-à-dire qu'il peut y avoir l'avalanche d'un seul jour, il peut y avoir. Une avalanche, par exemple, le jour où il avait tenté de faire ça sur 10 ans. Et 10 ans, il avait compté que la page mettrait 4 ans à se charger sur Internet. Et en même temps, si je ferme ça, si je lui ferme le clapet et que je refais mon avalanche, évidemment, la lecture, l'arrangement, chaque fois, va être complètement différente. C'est-à-dire que là encore, en revenant comme ça à cette idée de profusion, de masse, et pour nous qui faisons des mots, c'est encore la même chose. La question de lecture dynamique et la question d'éditorialisation, mais que l'éditorialisation ne soit plus un ensemble fixe, mais un ensemble qui se recompose suivant chaque geste que vous faites d'aller ouvrir la page, on est dans quelque chose quand même. Qu'est-ce que ça? Moi, c'est juste ça. Ce matin, enfin, là, pour cette heure, je voudrais m'en tenir. Qu'est-ce que ça nous ouvre et qu'est-ce que ça nous change pour simplement la question du texte. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il y a plein d'autres choses. Ben, par exemple, un truc qu'il appelle Ursula. Bon, je laisse tomber parce que je ne veux pas m'enfermer parce que là, ce type est trop piégeant. Et voilà sa page d'accueil. Donc, elle s'appelle Désordre. Et évidemment, il n'y a rien. Par contre, et si vous régénérez la page Désordre, elle-même va prendre une toute autre figure à chaque fois. Et donc, la notion même de page d'accueil, qu'est-ce que je suis mal dans la mienne avec une organisation fixe comme ça? Et en quoi, nous, par exemple, pour la littérature, dans cette masse comme ça, dans ces choses d'écran, comment arriver à casser comme ça quelque chose qui fonctionne avec des arborescences et tout comme ça, même si dans les ressources qu'on installe, nous, sont hiérarchisées et arborescentes. Est-ce qu'on est prêt à se balancer à cette démarche ou, par contre, je peux m'aider, c'est-à-dire qu'à mesure que je bascule mon curseur dans le petit truc juste en bas, comme ça, je vois apparaître des séries différentes de Philippe et que, mais pareil, là je ne veux pas aller m'embarquer trop, mais aller y voir, c'est. Je laisse ça ouvert, hein, j'ai le truc. Il y a d'autres, enfin, il y a tellement d'autres choses que le truc. Par contre. Ouais, je fais exprès de passer, mais c'est le contexte que je voudrais pour arriver comme ça à ces questions plus littérature. Je prends un autre photographe. Ce type, je l'ai découvert à Baltimore en novembre. Il y a un truc qui s'appelle Musée des arts imaginaires américains, un truc comme ça, ou ouais, musée. Ouais, voici, c'est ça exactement. Et ce truc, on a l'impression tout d'un coup de prendre comme une avalanche, dont l'équivalent chez nous en Europe, ce serait le musée de l'art brut à Lausanne, des choses avec beaucoup de gens venus de la psychiatrie, des trucs comme ça. Et à un moment, il y a une espèce de mur, et ce mur, en fait, reprend des photos de ce type qui s'appelle Noah Sialom, mais avec un truc très bizarre, c'est que toutes les 3 semaines, il a au moins 4 ou 5 noms sur Instagram. C'est toujours le même compte, mais le nom et l'accès, apparemment Instagram autorise ça, Twitter autorise ça aussi. C'est-à-dire, si vous changez votre avatar, votre compte reste fixe. Et ce type, là encore, normalement, charger la suite, là, il y a un petit truc, à partir de ce moment-là, ça devrait être continu. Ce type, je ne sais pas comment il génère ça, je pense que c'est simplement avec un téléphone. En moyenne, on envoie 10 à 15 par jour. Et simplement, on a une espèce, vous savez, comment l'histoire de la photo de rue est quelque chose d'extrêmement spécifique dans l'histoire de la photographie, et comment, pensez à Walker Evans ou Dorothy Lange, etc., comme ça, comment l'histoire de la photographie a pu se bâtir comme ça, avec cette relation comme ça, arbitraire, à qui on croise dans le réel, comme ça. Et tout d'un coup, là, on a quelque chose qui nous donne en permanence, mais quantifié par la photo, mais c'est donc une éditorialisation qui est simplement par le hasard, comme ça, de ce qu'il y a sur sa route temporelle, le quotidien d'une ville américaine qui est pas très belle, qui est souvent violente, mais en même temps, si on regarde ici, bah, oui, il y a 400 personnes qui ont dû signaler qu'il y avait. Le truc, et si je regarde Noah Sialom, bon, je vais pas m'attarder. Pareil, je veux vraiment pas m'attarder, c'est les questions qui comptent. 5615, 15 000, on est à suivre ça. Qu'est-ce que ça déplace et qu'est-ce que ça signifie? Dans la mesure où, pour moi, là, juste en m'attardant 5 minutes sur Instagram, ouais, c'est peut-être là comme ça le glissement. Je vais juste faire un tout petit lien que j'avais repéré comme ça en revenant à ma page centrale. Donc, vous voyez cette démarche comme ça, son pseudo principal, c'est No Photographer. Et en même temps, l'autre jour, est-ce que je l'ai mis, ce lien, lui qui, dans ses marches incessantes de Baltimore, prend comme ça cette espèce de visage d'une ville dure. Tout d'un coup, un crime est commis juste devant sa porte. Et là encore, on a cette ombre. Hier, on parlait du statut archétype et un petit peu banalisé de l'ombre. Mais tout d'un coup, si je ne suis pas dans ma marche quotidienne et que si un crime de hasard s'effectue devant chez moi, qu'est-ce que j'ai le droit de photographier? Et comment je photographie alors même que c'est moi qui ai appelé la police et que la police n'est pas encore arrivée? Et que le cadavre, je ne le montre pas, mais que je me montre moi avec ces genre de choses-là. Pas d'importance en tant que telle, mais sur cette relation, vous savez, de l'écriture au direct, cette relation de l'écriture à comment j'arpente quelque chose, comment je prends comme ça le rôle de l'épiphanie, par exemple, comment il est théorisé chez Joyce, etc., etc. Comment, là encore, cette relation de l'écriture au réel, la part de l'expérience et puis les limites et le représentable, en quoi, là encore, ce genre de... C'est là qu'on apprend. Instagram, pas m'attarder là-dessus. Vous savez que c'est un truc qui a été racheté par Facebook. Et de la même façon, on discutait tout à l'heure de la façon dont le hashtag inventé par les usagers de Twitter, là en ce moment, devenait complètement pourri et probablement on va être obligé de s'en dispenser. Instagram, a priori, est né de l'usage de l'appareil, c'est-à-dire simplement dans la médiation. Enfin, la naissance d'Instagram, c'est que le smartphone, donc là, les premiers iPhones, moi, quand j'étais l'année où j'étais au Québec, c'était 2008-2009, ils avaient tous des iPhones et moi, j'en avais pas. J'étais un peu jaloux, mais envoyer une photo devenait radicalement simple. Et encore, le premier appareil de la photo de l'iPhone était. Enfin bon, c'était vraiment très, très, assez minable, enfin rien à voir avec aujourd'hui. Et on avait une fonction de partage, vous pouvez envoyer par mail ou envoyer par Facebook, etc., etc. Instagram est venu avec ce truc de l'application où j'ouvre l'application, je déclenche et cette chose-là immédiatement se retrouve soit sur le premier réseau Instagram, soit du simple mouvement comme ça du push directement sur les réseaux que vous décidez, un Tumblr, un WordPress, évidemment Facebook, Twitter, etc. Donc a priori, Instagram est né comme ça uniquement de cette fonction du push simplifiée à un seul clic, à partir de quoi l'appareil qui vous sert comme ça de communication immédiate, donc c'est de la première proximité dans notre... elle est là, donc je ne vais pas charger Odile, mais quelque chose d'aussi simple que l'appareil, que votre smartphone. C'était la conclusion de ton intervention, si je ne me trompe pas. Et en même temps, ça encore, quelle histoire c'est. En même temps, par exemple, en ce moment, si vous prenez un truc comme ça, Subjectively Objective, c'est un gars qui est un brave français, je crois, Laurent Martineau ou un espèce de nom comme ça, qui est prof de je sais plus où, enfin bon, il doit gagner sa vie à des trucs comme ça. Et là encore, tout d'un coup, non, je me gourre, je confonds, là, ça c'est, on est avec un Américain, celui-là. Mais ça veut dire que là, on repensait au travail de Muriel Lehmann, ou ce que j'ai montré de Tabouki, tout d'un coup, l'usage de la plateforme réseau devient en tant que tel une production qui relève par contre uniquement de la photographie comme esthétique. C'est-à-dire que là, pour moi, ça m'intéresse profondément pour la littérature, où le réseau, qu'est-ce qu'on a à se battre, nous, en permanence là-dessus, les usages informatiques ne relèvent pas de la communication ou de la médiation de ressources qui, elles, participeraient d'une instance littéraire, mais en tant que telles, ces usages réseau peuvent devenir et conditionner une intervention enfin, qui ne participe que de l'esthétique qu'il a définie, si j'arrive à parler un peu clair. Et après, il y a toujours un connard qui vient dire beautiful ou un petit cœur bleu, et donc en même temps, c'est là où on mesure aussitôt les trucs de préhistoire. Mais voyez pour moi, ou en quoi ces choses-là, non mais c'est pas pour plaisanter, c'est que comment les trucs de tag, lui il utilise des tags, je sais pas, même pas, bon, peu importe. Mais pour moi, en quoi une plateforme qui n'était pas du tout destinée à accueillir des usages savants ou esthétiques devient comme ça un outil esthétique en tant que tel. Et sera, dans l'école où je suis, où on a 230 étudiants, je pense qu'il y en a à peu près 25 qui ont des comptes Instagram. Par contre, en même temps, voilà, celui-ci, par exemple, j'aime beaucoup d'ailleurs sa bio, auteur du fameux cantique inédit, Montagne et les couleurs du temps. Et il a aussi un truc, bon, mais voilà un gars qui, a priori, je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie civile, mais qui simplement pratique la photographie urbaine, la pratique avec un mode raisonné, c'est-à-dire il va marcher à Saint-Denis, à Argenteuil, à Aubervilliers, il travaille sur des séries, par exemple, série de, est-ce qu'il y a des tags, le flanc de la maison jaune, façade, maison, building, green, architecture, etc., photographie urbaine, cityscape. Donc si je cherche façade chez lui, je vais retrouver, bon, c'est pas hyper concluant et tout ça, mais je sais qu'il a commencé cette série il y a quelques jours de fractions de maison émergeant comme ça d'une ligne horizontale. Là encore, on a un usage de création contemporaine qui peut s'exprimer extrêmement fort au regard de nos pratiques littéraires. Pensez à l'espèce d'espace de Georges Perec, pensez au dépaysement de Jean-Christophe Bailly, pensez au boulot de Bruce Bégout, ou ça. En tout cas, l'expérience urbaine, là où elle conditionne une grande part du champ de l'écriture contemporaine, ben, s'exprime directement par image. Et en quoi ce gars-là qui se rêvait auteur et auteur d'un fameux cantique qui a été refusé par 50 éditeurs, probablement, enfin, c'est justement, c'est une question qui est vachement grave, tout d'un coup, trouve son propre chemin dans la photographie et pas tout comme ça. Bon, je ne veux pas m'attarder sur ces trucs-là, c'est plus, mais en même temps, en quoi Instagram devient aussi, par exemple, Seb Rongier, qui est lui auteur, et bon, on est maintenant à 3 ou 4 bouquins au compteur, et qui est gars qui compte beaucoup. Chaque matin, photographie est quelque chose en noir et blanc sur son trajet de travail entre chez lui et son lycée. Donc celle-ci en fait partie. Est-ce qu'il a mis un hashtag? Mais non, c'est un écrivain, donc il est nul. Il n'a pas mis de hashtag. Par contre, sur Facebook, si je cherche Rongier, là, je vais trouver. Bon, je passe très vite parce que surtout que je m'empêche de trop perdre de temps. Voilà sa série des matins. Vous voyez, pas un truc comme ça. N'empêche que pour quelqu'un qui écrit aussi, et qui en même temps est dans ce truc-là, oui, je suis prof de lycée. Ben, en même temps, il n'y a pas que ça sur son site, mais ce rituel, chaque matin, on sait qu'à 6h24, ce type-là, dans ses 40 minutes de trajet professionnel, ce type-là, qui est auteur et prof de lycée, nous envoie un signe urbain en noir et blanc, et que notre contact avec l'auteur, Seb est aussi un théoricien du cinéma et du cinéma expérimental, cette présence-là, pour moi, fait partie de son travail d'écriture. Pareil, je ne veux pas développer ces machins-là, juste créer, enfin, approcher progressivement dans quoi penser aujourd'hui nos usages réseau passe par ce genre de. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, c'est marrant par contre. L'autre jour, ce type-là, mais s'est mis à me suivre. Michel-Édouard Leclerc, vous voyez en France ce que c'est les Leclerc. On a Auchan, la personne la plus riche de France, c'est le propriétaire des supermarchés Auchan. Et Leclerc, c'est une famille bretonne, et donc c'est aussi des Intermarchés qu'il y a partout en France. Qu'est-ce qu'envoie ce type-là? Ben, par exemple, il a ses vacances à Megève, ça va. Récemment, il était en vacances à Tahiti, il y avait un poste super. Attends, je vais essayer de vous le retrouver. Voilà, il est là avec son épouse, sa tendre et chère. Non, avez-vous. Il y a toujours un petit baratin à côté, mais ouais, c'est une de ces deux, ça va être. Plongée sous-marine. Il avait un truc, est-ce que je vais le retrouver? Je prends toutes les photos sur partir d'un fidèle Canon, je ne vais pas leur tomber dessus. En fait, je conçois mon profil comme une sorte de journal. Je prends énormément de photos et de net. Je décale parfois de quelques jours pour raison de sécurité, qu'on ne vienne pas m'embêter quand je suis dans certains lieux. Et je ne vais pas le retrouver, mais il y a dans ce truc-là, Y a, pareil, donc, dans cette discussion, je distille les petites peintures que je fais le week-end. C'est l'expression peintre du dimanche, en France, comme elle est connotée. Mais dans la même série, il avait dit « Mais ça coûte pas du tout cher, la plongée à Tahiti, une fois qu'on a payé le voyage. » Ce truc. Et en même temps, pourquoi ce type me suit? Sauf que là, il vient de lancer une maison d'édition consacrée au graphisme et à la bande dessinée. Et en même temps, il répond. Et par exemple, là, ce qui est fascinant, c'est qu'on a aussi ces réunions de bureau, on a aussi ces visites de supermarchés. Voilà, ça en fait partie. Chez Christophe Comte, exploitant agricole, éleveur de porc, etc. Et on a le patron d'entreprise. Bon, l'archétype de cette photo, évidemment, est particulièrement balzacienne, mais en tant que tel, est-ce qu'au temps de Balzac, on aurait la documentation d'un grand patron? Et moi, je un... Et par contre, alors c'est là aussi, je continue, et puis on ne va pas faire des récréations
Non, mais c'est bien
des comme ça.
le grand patron ou c'est
Ah
le
oui,
fils? Okay,
ah
non, c'est bon.
oui. C'est
Excuse-moi, je suis.
l'héritier, c'est le patron Leclerc. Mais est-ce que j'ai jamais obtenu en 15 ans de bagarre qu'un quelconque patron de maison d'édition en fasse autant? Et pourtant, il y en a certains que j'ai travaillé au corps et au point même de pratiquer l'hérésie. Voilà, cette photo, elle ne vient pas de chez lui. Hier soir, c'était un truc sur Facebook, c'était génial. Bien se repérer pour bien acheter. Et ce camion de livraison à Marseille, bon, voilà, la photo se passe de truc. Eh ben. Faute de frein, le camion a manifestement perdu ses repères dans le port de Hattville-Marseille, etc. Mais en même temps, là, il joue, c'est-à-dire qu'il récupère une photo qui a fait le tour des réseaux, une photo devenue virale, mais qui, parce qu'elle le concerne, il la republie, etc. Bon, j'arrête avec ce type. Ce qui est curieux, c'est que je vous dis qu'en même temps, on arrive à communiquer. Mais en tant que tel, pour moi, c'est en repassant par la case Balzac qu'on arrive à réinterroger ces trucs-là. Où est le récit et qu'est-ce que c'est ces récits? Et en même temps, vous savez qu'Instagram, maintenant, on parlait de Wattpad aussi là, dans notre colloque, Wattpad a énormément de mal à prendre en France, du moins est tellement avalé par ses propres pratiques de genre, fantasy, etc., que les quelques tentatives qui s'y font à l'intérieur, j'ai pas mal de copains qui essayent, se font littéralement avaler. Par contre, Instagram, qui a été racheté par Facebook, n'est pas limité ici. Enfin, en tout cas, je sais plus, mais en tout cas, je crois qu'on a droit à soit 800 caractères ou à machin, ou même 1400 caractères, etc. On peut mettre des textes assez longs. Donc, naissent en ce moment des usages littéraires d'associations texte-image, mais où le texte devient incrémentiel et se propage comme texte sur Instagram. Et en même temps, ce rapport texte-image, comment il est modifié à ce moment-là? Bon, je reviens, on approche quand même des zones. J'en suis à 6, j'en ai pas à moitié, mais de toute façon, ouais, complètement différent. Olivier Odasava, est-ce que tout le monde le connaît? Non, c'est pas grave. Mais pour moi, c'est ça aussi, fondamentalement, cette question-là. Qu'est-ce que c'est Et même avec Marcello, on n'a pas réussi à trouver. J'en parle parce qu'il est parti. Pars loin, Marcello. Va-t'en loin, Marcello. Et chaque fois, tu dis, ouais, mais quand même, toi, etc. Ben non, Marcello. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qui c'est les mecs qui inventent aujourd'hui? Olivier Odasava, j'en avais jamais entendu parler de son nom. Par contre, avec mes copains, et on va arriver là, je vais vous en montrer quelques-uns. Ouais, on est quand même dans les temps encore. Hein. Où est-ce qu'il est? Dreamlands Virtual Tour. Quel titre à chier! Et en même temps, comme on est tout le temps à perdre notre temps sur Internet, effectivement, on a repéré assez rapidement avec mes potes un site qui s'appelait Dreamlands Virtual Tour et sans savoir du tout qui était derrière, est-ce qu'il y avait un nom et tout ça, afficher mon profil complet, est-ce que maintenant il l'a rempli? Regardez, non, il n'a même pas pris le peine de mettre s'il y a un email, blog auquel je suis abonné, qui suis-je, sexe masculin, au monument. Donc il a même pas changé son truc-là. Si, maintenant, pardon, il y a son nom. Mais vous voyez, le nom, on ne va même pas le regarder par rapport à je n'ai pas pris. Bon, par contre, ça, c'est signifiant. Je n'ai pas pris l'avion depuis 15 ans, mais j'aime l'idée du voyage. J'aime particulièrement l'idée du voyage immobile, immatériel. Le mot immatériel est là, et le mot fictif qui vient. J'aime être là où je ne suis pas, même si ma présence n'est que virtuelle. Je suis être un voyageur en chambre, comme il y a des toreros de salon. c'est de la belle rhétorique qui ne fait pas de mal à personne. Maintenant, si on va dans ce site, comment ça marche? Tout est fait à partir de Google Street View ou de l'équivalent de Google Street View. Ça paraît banal aujourd'hui, il y a 4 ans, ça ne l'était pas du tout. De l'équivalent russe qui s'appelle Yandex. Vous savez, les satellites américains ne reproduisent pas les photographies russes, ou en tout cas pas avec détail. Par contre, il y a un machin qui s'appelle Yandex, qui lui archive les villes. Si on aperçoit, si vous voyez un nom comme ça, qui fait un peu barrer, Kaliningrad, où on peut entrer dans Kaliningrad avec de la même façon. Et si j'ai tapé ici, vous voyez là, une liste qui elle est alphabétique, mais qui est faite uniquement comme ça de noms de villes, strictement, je vais trouver sur Kaliningrad, au bout de 4 ans, un nombre d'entrées que je ne sais même pas mémoriser. Bon, peu importe. Qu'est-ce qui travaille ce truc? Il travaille par série. Zone portuaire, trafic ferroviaire. Il a fait une série où là, normalement, je dois trouver un hashtag dans ce billet, avec des liaisons aussi qui sont, qu'il construit lui-même. Je ne veux pas entrer parce que c'est comme des ordres, c'est des choses où on n'en finit pas. L'autre jour, par exemple, qu'est-ce qu'il y a eu comme série, par exemple, dans ce truc-là? Et prendre des villes qui portent le même nom. Par exemple, vous prenez Montpellier en France, Montpellier aux USA, ou Syracuse, pas loin d'ici, Syracuse en Italie. Et puis, en même temps, vous regardez les McDonald's. Et vous comparez les McDonald's, etc. En tant que tel, pas tellement d'intérêt. Mais quand c'est multiplié sur 4 ans, avec comme ça, l'autre jour, par exemple, dans son utilisation, il était parti. Est-ce que je regarde, je crois que c'était. Si je vais à Liverpool, je vais probablement
Donc,
le.
ton nom faisait partie de la liste.
Hein?
Ton nom fait partie de la liste.
Ah, je vois. Oui, parce qu'on a fait des échanges ensemble, genre. Tout à l'heure, j'y reviendrai, toi. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que des noms de villes. Janis Joplin, etc. Keith Richards, etc. Est-ce que c'était Liverpool? Je ne me rappelle plus. Où il avait travaillé, par exemple, dans les trucs de Google Earth. Non, ce n'est pas Liverpool, je me trompe. Les Google Cars font des demi-tours ou se stationnent. Et à ce moment-là, si vous avez une galerie commerciale ou si vous avez une entrée de hall, on peut entrer dans l'intérieur de lieu, même si c'est des photos qui sont vues depuis la Google Card. Donc, il avait fait une série jusqu'où je peux entrer à l'intérieur de bâtiments grâce à Google Street View. Et ça prenait un côté, vous savez, par exemple, où il y a toutes ces pratiques de flou, ces pratiques de non-reconnaissance de personnes, etc. Je prends un autre exemple, après je le quitte, juste entrer sur une chose importante pour moi par rapport à Olivier. J'entre dans Cleveland. A priori, je vais me retrouver dans quelque chose là encore. Bon, mais là, on est dans la série des intérieurs. C'est-à-dire, à partir de Google Street View, je peux grossir des détails et obtenir comme ça de rentrer dans des intérieurs, alors qu'a priori, la Google Cars, évidemment, ne rentre pas dans l'intérieur du truc. Par contre, si je descends un petit peu plus, si c'est bon, série station d'essence, si c'est trop long, je vais abréger. Voilà, j'y suis. Est-ce que vous souvenez de ce fait divers où un type avait séquestré pendant plus de 10 ans 3 femmes sous ce pavillon? C'était il y a 5, 6 mois. Bon, évidemment, tout le monde est capable de dire, et tout le monde probablement découvrant ce truc-là s'est dit, mais où est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce truc? L'adresse était publique, et effectivement, et là on est justement dans ce qui m'intéresse chez Lovecraft, c'est-à-dire une réalité parfaitement ordinaire, banale, et en même temps précisément que les espaces ne soient pas délimités, tout est précis, tout est clean, et qu'en même temps, vous savez que vous avez une fonction sur Google Street View de dépli temporel. De tout ce truc où en Amérique ça a commencé, enfin aux US ça a commencé en 1997, si je ne me trompe pas. Donc sur les lieux où passent très souvent les satellites, vous pouvez descendre. Ce qui est aussi une fonction qui génère de la fiction, y compris chez des types qui sont a priori loin d'Internet. Chez nous, le type que je respecte le plus s'appelle Jean Rollin, qui travaille, et Jean Rollin travaille toujours sur des problématiques de guerre, de géostratégie et tout ça. Il a publié il y a 2 ans un livre qui s'appelait Hormuz, donc sur ce détroit qui sépare l'Iran là, de ce qui est en face, ou Djibouti. Enfin, bon, je ne suis pas très dans la concentration de dire, je vais peut-être dire des monstruosités de cartes géographiques et ce n'est pas grave. Mais Olivier, par exemple, pour gérer, donc insère dans son livre des vidéos YouTube de piratage en mer d'Oman. et insère des URL où, sur Google Street View, on peut voir le mouvement des porte-avions américains selon qu'ils sont dans le port ou pas, qu'ils sortent ou pas. Et donc, dans Olivier Rollin, qui a priori n'est pas du tout un type de pratique Internet, pour entrer comme ça dans une analyse de réel, là où il construit son livre et sa fiction, les pratiques comme ça de dépli temporel de Google Street View sont importantes. Ce qu'a fait Odazafa, c'est ça, c'est-à-dire si je déplie toutes les ressources Google Street View de la même, alors je ne vais pas entrer en détail, il faudrait ouvrir ce truc-là avec plus de précision, ben je vais trouver 5 photos du même pavillon. Vous savez, il y en avait une avec un enfant qui joue. Là. Non, par contre, j'ai dû me gourer, je ne suis plus à Cleveland. Et pendant que cette gamine joue ici, trois femmes sont séquestrées de cet autre côté de la cloison dans les conditions qui ont été révélées, etc. Pas m'attarder sur ces trucs-là, mais dans ce rapport de la littérature à la tragédie, à l'horreur, à la représentation, etc., qu'est-ce qui m'intéresse par contre chez Odazawa ? C'est que des blogs qui sont devenus des livres, on en a des tas. Lui, il est arrivé avec donc un culte qu'une maison expérimentale chez nous au départ, fondée par des petits collectifs d'écrivains, Claro, Arnaud Bertina, Gilles sera plus qualifié que moi pour dire les autres. Un culte a été racheté par Actes Sud maintenant, c'est une filiale donc de la plus grosse maison commerciale française. Et dans cette espèce d'énorme pavé qui s'appelle Éclat d'Amérique, chronique d'un voyage virtuel, non, il ne s'agit pas d'une éditorialisation du blog, il s'agit de qu'est-ce qu'on peut fabriquer comme récit, comme invention, à la manière de Thoreau et tout ça, dans la tradition du récit de voyage, à partir d'une réalité qui n'est pas son expérience personnelle du voyage, mais qui est simplement le territoire virtuel fabriqué par l'expérience du blog. C'est-à-dire que rien du blog ne se retrouve dans le livre, etc. Et là, pour moi, là, c'est juste indiciel, mais on commence aussi à avoir quelque chose où là, c'est un auteur dont ça a été le premier livre, ça a été hyper dur qu'il obtienne ce truc-là. Enfin, ça a mis un an ou deux, mais de toute façon, ça n'a rien d'exceptionnel dans la littérature de passer un an ou deux pour arriver à publier un bouquin. Là, il vient d'en sortir un deuxième, et en même temps, vous voyez que son blog n'a pas changé, c'est-à-dire que si on va là, on a là l'image conventionnelle, commerciale du livre, avec Éclat d'Amérique en gros, puis comme c'est un premier auteur, un premier roman, son nom est en tout petit ici, Olivier Odazawa, mais que même lui, dans un blog, avec un livre qui fait référence chez nous, enfin, puis, auquel on peut servir, tous les usages sont là, mais le blog n'a même pas remis en avant un statut d'écrivain par rapport à... Bon, je laisse les phrases en l'air, mais on pourrait y revenir ensuite. Je reviens à mon point de vue. Puis vous me dites si je vous emmerde trop. Si le truc, celui-là, on va passer vite. Qui le connaît, celui-là, dans la salle? Toi? Ouais, t'es le seul. Vous avez déjà tout oublié, mon pauvre Karl. L'aventure de Karl, et lui, sa figure là, elle est floue. Le truc. Tu l'as connu, toi? Même pas. Oh un gars qui commence astrophysicien et qui se fait absorber après par en tant qu'astrophysicien au moment où le W3C, c'est les trois petits W qu'on a d'Internet, a établi des normes internationales, a participé à ces trucs-là, et depuis qui a travaillé dans ce monde informatique, et maintenant, donc à Montréal. Il était déjà débuggeur, non pas de Mozilla, mais de l'autre Opera, je crois, cet autre truc comme ça. Et maintenant, il travaille donc pour Firefox. Il travaille de chez lui au Japon, mais il y a juste à peine 2 ans qu'il a quitté Montréal, où il a vécu probablement à peu près 8 ans. À quoi ressemble le blog de Karl ? C'est un truc pour moi qui existait déjà, justement vers 97-98, quand j'ai commencé moi-même à publier sur web. Ce truc est immémorial. Évidemment, ça a changé. Il a changé un peu le CSS. Karl est toujours... il a toujours avec lui une prothèse de ce genre-là. C'est quelqu'un qui pratique la photographie. Ça veut dire que là, on est contrairement... On n'a plus rien à voir avec Nériol Lehmann et tout ça. On n'est pas en réseau, mais depuis 15 ans, tous les jours, il y a une photographie qui participe de l'intime, pas d'une est-ce que c'est une esthétique, mais qui participe comme ça d'un choix esthétique à partir de ce qui vous rejoint au plus près dans la sphère réelle. Et à partir de ce moment-là, pour moi, on est dans une démarche qui est complètement proustienne. La photo est identifiée, 25 décembre 2015, et dans le rituel de Karl, qui vivait là, près de Jean Talon, il y a le matin, aller dans un bistrot, prendre un café latte, et d'avoir un beau carnet japonais, et de prendre des notes en lisant un livre. C'est-à-dire que les livres qu'il lit, là on est dans Julien Gracq en lisant, en écrivant, bon, j'ai ouvert complètement par hasard, un livre que lit Karl, c'est 2-3 mois. Mais en même temps, quand vous lisez le blog, un livre est décomposé en phrases, comme ça. Et très bizarrement, des livres, par exemple, Gracq, en lisant, en écrivant, j'ai dû le lire au moins 5 ou 6 fois, ça fait 15 ans ou au moins que je vis avec depuis que ce truc est paru, y compris le fait que Gracq est un des rares avec qui ont pu discuter, aller, rencontrer et tout ça. On parle toujours de la concentration de la lecture, on parle toujours de l'éclatement, de la fragmentation. Un livre lu par fragments, un livre atomisé, qu'est-ce qui nous change et qu'est-ce qui reproduit, qu'est-ce qu'il est capable d'entrer encore, de produire encore, de capacité de phrase et de capacité littéraire en entier dans une phrase séparée comme ça de la lecture continue. J'extrapole par rapport à Karl, mais pas tant que ça, puisque si on faisait l'analyse comme ça de ses lectures sur 15 ans, on a une bibliothèque qui serait... Il est significatif aussi que cette écume du temps restée sur lui qui nous charme dans un roman, quand il a survécu, nous glace dans une pièce de théâtre. Bon, bizarre pour connaître ça, mais je ne suis pas tombé forcément sur le mieux. Et en même temps, à ce moment d'atomisation du livre qu'il lit, il est capable, lui, d'aligner une phrase, et son écriture se résumera comme ça à choses qui sont dans le même degré d'atomisation, les choses que nous oublierons, les choses qui n'appartiendront plus au quotidien et dont il faudra expliquer le souvenir avec un grain d'ironie, de nostalgie et de chaleur tendre, c'est son écriture à lui. Ce type, et ensuite il a une autre section où là on a des notes qui sont le papier avion pour envoyer des lettres vers le Brésil dans une enveloppe au contour bleu, blanc, rouge en guise de réponse à l'enveloppe au contour jaune, vert. Les pages de livres non découpées dont nous nous réjouissons. Des notes prises au fil de la lecture. Mais où là, cette phrase « Chaque objet disparu est une encre pour la mémoire » se retrouve au même niveau sémantique que la phrase qu'il met en exergue, mais là, qui sont ces notes prises ce jour-là, à mesure qu'il lit « Ticket de train en carton épais rose que nous prenions de temps en temps, donc une mémoire, le son du modem quand il se connecte au fournisseur d'accès afin de pouvoir accéder à des choses comme ça, qui participent du travail de notes, figure dans ce truc-là. » Et en même temps, il a cette chose-là qui est évidemment complètement inaccessible à des amateurs dans mon genre, le mot amateur encore, qui est bricoleur, pardon, qui revient, ce type-là qui est devenu mais qui appartient à une espèce de communauté. L'autre jour, par exemple, il y avait un truc très marrant dans son blog, c'est Firefox les avait rassemblés tous, ces débuggeurs à échelle internationale, donc ils sont environ 300 ou 400, à Disneyland en Floride, Karl à Disneyland, où donc vous avez des choses qui en même temps peuvent être une réflexion sur le code. On dit le code c'est de l'écriture, etc. Bon, lorsqu'il s'agit de gens au niveau de Karl et des interrogations sur sémantique et contenu, par exemple, ce type-là prétend travailler sans logiciel de mail, etc. Je passe comme ça. Mais là, cette espèce d'alchimie. Bon, on a affaire à un type caractériel, mais on sait que tous les grands écrivains, genre Proust, tout ça, ont été des caractériels encore plus notoires probablement que lui. Donc si là, je vais pas, si je fais développement web, afficher le code source de la page, et après, moi, j'y connaîtrai pas. Mais il y a est-ce qu'il est même capable de le cacher? Mais en tout cas, dans ces pages, je sais pas où c'est, mais il a des scripts qui interdisent à Google d'archiver ces pages. C'est-à-dire que le site ne trouve pas. Il a radicalisé ça à un point qu'il a été assez longtemps sur Twitter. Il y a 4 mois, il s'est retiré de Twitter. Donc Karl est un homme sans réseau. Et en même temps, pour moi, c'est une œuvre, une des œuvres au bout de 15 ans, qui est des plus considérables. Par contre, si vous retrouvez ce truc-là, c'est-à-dire il note la note de publication, 19 décembre, son journal est toujours publié à échelle, comme ça, de 3 mois d'écart. Toujours Julien Gracq, qui font souvenir, mais vous avez, et voyez en même temps cette barbarie, c'est-à-dire, j'écris les billets de Lagrange, Et vous pouvez y aller, vous pouvez chercher. 2000, j'exagère, vous voyez, ça fait seulement 15 ans qu'il est tombé. Évidemment, ça a changé un petit peu. Il y a un truc d'ailleurs qui est très beau, qui est le truc. La terre a tremblé. Voilà, événement qui s'est passé. Voilà, tout d'un coup, l'autobiographie rejoint. Et là, tout d'un coup, il s'est fait une heure. Laissons Karl. Mais en même temps, pour moi, dans ces trucs-là, ça aussi, quel déplacement. C'est-à-dire, je sais pas combien on est à le suivre, mais évidemment, au bout de 15 ans, c'est un type qu'on respecte tous à un point considérable. Ah ouais, l'autre jour, peu importe. Il y avait tous les matins, il continue son rituel dans un bistrot. Le serveur japonais du bistrot, ce blanc qui vient tous les jours dans ce coin paumé là, à 2 heures en dessous de Tokyo, et qui prend des notes comme ça, il lui avait balancé sa photo sur Instagram. Donc Karl, tout d'un coup, j'ai pas réussi à retrouver. Le 8, je m'étais dit que je ferais une visite de mon ordi, mais le temps a trop passé, puis peut-être on y reviendra après. Je voudrais juste continuer comme ça. Non pas toujours la question de l'image, puis vous me direz aussi quand faudra que j'accélère, mais vous voyez, on n'est pas loin, un truc là, on est vraiment dans maintenant s'approcher de la littérature. Question qui est essentielle dans le truc de la photo, mais qui n'est pas née de l'interrogation de la photo numérique. Je pense par exemple à un livre de Jean-Christophe Bailly qui s'appelle L'instant et son ombre, c'est-à-dire sur c'est que il y a eu deux inventions simultanées de la photographie, daguerre en France et Talbot quelques mois plus tard en Angleterre. Et donc, nous, cette gloriole franco-française d'avoir été les premiers à faire la photographie, mais c'est plus compliqué que ça. Et Talbot, par contre, a une approche complètement différente, parce qu'on a ses textes, c'était lui a publié le premier livre, où la question d'image vient de la peinture, c'est-à-dire comment je peux arriver à reproduire là où l'image, l'image sténopée, c'est-à-dire l'image faite comme ça dans la chambre, la caméra lucida, comme disent les anglophones, est si impalpable qu'elle est plus forte que la peinture. Et donc l'invention de la photographie par Talbot part de l'image, contrairement à Daguerre, qui part du réel. Bon, ça, donc cette question qui n'a rien à voir avec le web. Par contre, le travail de Bailly et tous ces trucs-là, et si on pense la naissance de l'image à partir de Talbot, l'image n'a jamais été un instantané. Évidemment, elle a conquis, c'est-à-dire si vous prenez le portrait de Baudelaire par Carja, ou le portrait de Rimbaud par Carja aussi, on sait qu'ils sont restés 4 ou 6 minutes comme ça, le plus immobile possible devant le truc comme ça. Évidemment, nous, on peut travailler avec des 2 millièmes, etc. Vous avez tous vu ces expériences aux 10 millièmes de seconde. Bon, je ne vais pas entrer là-dessus. Mais en quoi aujourd'hui, par exemple, dans les derniers iPhones, c'est que vous avez dans les trucs Apple où une photo fixe, il y a plus la notion de photo fixe a disparu. C'est-à-dire, elle vous apparaît fixe, mais dès que vous la touchez ou que vous simplement vous la regardez, elle va être en boucle comme les Vine et les machins, un truc comme ça, avec le contexte sonore et un avant-après. Ce qui fait que la question de la temporalité de l'image sont des questions qu'on a complètement réouvertes. Et précisément parce qu'on les réouvre en tant que temporalité, à ce moment-là, la temporalité même du texte, du prononcé de la phrase, de l'intervention, de l'oralité, de l'objet oral ou de l'objet performé, redevient comme ça, reprend une signifiance. Et ces questions-là, pour moi, en ce moment, c'est peut-être pour là où il y a un atelier de littérature, où on ouvrirait en ce moment peut-être quelque chose qui n'est pas important en tant que forme, je vais vous en montrer deux, trois, mais qui redevient signifiant en tant qu'objet temporel et qui nous oblige à revisiter le corpus littéraire. Par exemple, Proust, c'est 14 nappes, enfin 8 nappes principales, 14 en tout. Chacune de ces nappes étant basée sur un instant soit de réveil, soit d'endormissement. Et en même temps, si on se concentre sur le temps référentiel nul, c'est-à-dire ce moment où soit du réveil, soit de l'endormissement est pris dans son absence de durée, à ce moment-là, je peux avoir une image de la totalité de la période, des 2 mois, ou des 4 mois, ou de la semaine, qui sont associées à la récurrence de cette petite vibration. Et bon, je ne vais pas m'entrer là-dessus. Laura Vasquez. C'est un truc, ça existe depuis. Depuis combien de temps elle fait ça? Juillet 2015, décembre 2014, juin 14, elle a commencé en avril 14. Et on va se prendre le mois de mars. Tchac, c'est fini. Cette fille a eu. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez déjà croisée dans la lecture ou ça. Elle est extrêmement active dans en poésie. Elle performe, publie et tout ça. Donc l'instance du livre est présente chez elle. Mais donc voilà un an et demi que sa seule présence réseau, c'est. Peu importe, c'est en tant qu'échantillonnage, il y en a d'autres. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire sur un an et demi que sa propagation réseau, que son, à côté de ses autres pratiques d'écriture et de performance, soit la discipline à laquelle on se contraint soi-même, comme Karl avec son heure de lecture et sa notation et son carnet et les notes techniques de ce qu'il a fait dans son boulot, de dire quel que soit le jour, où que je sois, n'importe comment que je sois habillé, je me filme en disant un mot. Et au bout du mois, je regarde qu'est-ce qu'ont fabriqué ces 30 mots. Et on devrait interdire les gens d'avoir des chats dans leur machin. Bon, je reste sur YouTube avec un ou deux petits trucs aussi. Mais voilà. Mais vraiment pour moi des questions. Prenons par exemple deux filles qui pour nous sont considérables dans le truc contemporain. Emmanuelle Pirère, qui travaille énormément, y compris avec Lionel Ruffel, sur la notion de fiction documentaire. Je ne sais pas si je suis même plus en état de dire la suite de ces bouquins.
Ça parle de cette lui, la cette elle.
Voilà, féerie générale, tous ces trucs-là qui sont vraiment enfin pour moi des repères assez essentiels dans le contemporain, mais toujours en même temps avec cette idée comme ça c'est pour ça que contrairement à des Camille Laurence ou des machins comme ça, vous ne la verrez pas dans des jurys, vous ne la verrez pas comme Annie Arnaud dans ces machins-là. N'empêche que Pirère, c'est littérature contemporaine et pas les autres. Puis j'en parle assez puisque je veux bien avoir 20 ans de plus qu'elle et ça ne me regarde pas. Question de politique et de littérature, d'écologie. Peu importe, là on a deux personnages masculins-féminins. Qui jouent un texte fabriqué ensemble et qui portent leur activité littéraire dans un champ politique et qu'ils balancent sur un réseau social. Et donc, Emmanuelle qui est ici, a priori, ça interfère pas avec les bouquins qu'elle publie et sa démarche d'auteur. Sauf que tout d'un coup, les 3 minutes 53 de YouTube deviennent comme ça une espèce de façade politique là où. Ces bouquins ne s'intéressent pas forcément à ça. Je vais juste laisser ça comme exemple. Montrer un autre aussi, une autre fille qui pour nous compte pas mal, Noémie Lefebvre. Ça en est à son troisième bouquin. C'est publié chez Vertical ou l'Olivier Vertical, elle publie. Et c'est une écriture là encore qui est peut-être parmi cette génération-là, mais des écritures qui comptent parce qu'elles sont directement politique et que vous trouverez pas ça dans le monde des livres et tout ça. Et voilà ce qu'elle fait en YouTube. Donc c'est avec son mec. Voilà un qui est plutôt rigolo. Mais ils en font un toutes les 3 semaines environ. On va pas tout regarder, hein, c'est juste.
Ha ha ha!
la figure de l'intellectuel engagé, la figure de l'écrivain à la Sartre et tout ça.
C'est la contrepartie.
Ouais, c'est ça, passez-moi de la pommade, allez-y.
Bon, je vais pas couper l'élan, puis je vais, il suffit que vous alliez là sur le billet pour vous trouverez ultra facilement tout ça. Mais en même temps, c'est question pour moi de posture. C'est-à-dire que tout d'un coup, on fabrique des trucs de 4 minutes, on fabrique des choses qui ne sont pas liées du tout à l'écriture, et en même temps qui posent la question, par exemple, du théâtre. C'est-à-dire on se représente soi-même, mais on construit un jeu. Bon, ils sont assez branquignoles et allumés tous les deux. Mais tout d'un coup, est-ce que jamais, par exemple, cette question de cette mise en scène de soi, ou est-ce qu'elle a été absente à quelques moments, par exemple, de Baudelaire ou de ces trucs-là? Donc ces choses-là, pour moi, c'est là où la question du réseau n'est pas... n'a rien à voir avec une médiation. Bon, je vais accélérer. Il y en avait d'autres. Je vais vous montrer une Montréalaise qui s'appelle Lisandre Nadeau. Vous la connaissez? Ouais, bah ouais, forcément. À Montréal, elle est plus connue que Noémie Lefebvre. Bon. Si on la regarde, on n'arrête plus. On a une fille de 21 ans qui n'est pas une intello. Elle a dû lâcher le lycée à 17 ans. Elle fait du modeling, elle fait du... Enfin bon, si vous regardez, c'est tout et n'importe quoi et tout ça. Enfin, tout et n'importe quoi. C'est pas tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est pas une intellectuelle. Et en tout cas, elle lit pas de livres. Et en tout cas, c'est pas de la littérature. En même temps, la question de l'adresse, la question de... au bout de 3 ans de blog, et le fait de la création d'un public, et c'est pas une question de l'existence d'un public, tout ça. C'est pas le fait qu'elle ait 100 000. Et c'est pas le fait que YouTube, maintenant, la paye et lui permet d'exister, même pas luxueusement, mais avec les voyages qu'elle a et tous ces machins-là, les pubs et Coca-Cola et tous ces trucs, fait que tout d'un coup, elle entre dans un système où l'exercice de la parole improvisée va poser des questions corporelles, de rapport à la ville, qui sont complètement en osmose avec ce qu'on va trouver dans les bouquins des Simon Brosseau et tout ça, tout ça. Bon, pas m'attarder là-dessus, mais pour moi, c'est une grande question aussi là-dessus. À quel endroit naissent des pratiques littéraires qui nous interrogent en profondeur sur notre vocabulaire littéraire, par exemple la question de l'impro. Les questions, mais pour moi, vous voyez, ces questions-là, c'est pas le statut de l'intime, le statut aussi de la viralité, de la brièveté, mais des trucs qu'on peut faire tous les jours comme ça avec ces espèces de journaux quotidiens. Mais en même temps, qu'est-ce que ça fait de le projeter sur YouTube, précisément parce que cette question de circulation, mais comme n'importe quelle revue littéraire travaillait dans un écosystème de diffusion, même si c'était les librairies et tout ça, devient signifiant. En quoi on a à prendre ce truc-là? Hier, donc Yann Saint-Onge, là, qui est à l'UQAM, nous a parlé de nous a fait un truc sur ses performances là, des poètes irakiens là, qui lisent leur poésie dans les champs de mines, ça j'y reviens pas, et parlant de Joachim Séné qui en fabrique des traductions, c'est-à-dire qui combine des traducteurs automatiques pour essayer de retrouver un accès publié à des poésies qui nous sont inaccessibles par la langue. Joachim a une fonction, c'est-à-dire qu'il est devenu depuis 3 ans fabricant de sites pour auteurs. C'est-à-dire que vous arrivez en tant qu'auteur, vous prenez des cafés avec lui, vous cherchez des trucs, et à partir de là, vous définissez les fonctionnalités de l'interface qui peuvent être comme ça extrêmement simples et ralenties quand c'est Leslie Kaplan qui s'en sert finalement assez peu, qui peuvent être hyper plus créatives quand il s'agit de quelqu'un comme Christine Janet qui est complètement comme ça dans l'exploration à la fois plastique, sonore, dans tous les réseaux communs. Mais pour moi, peut-être une des nouveautés, c'est que en quoi on commence à voir des gens qui... à quel moment on s'approprie l'interface des sites pour en faire un élément comme ça qui est celui de notre langage dans ce domaine-là. D'autres questions, par exemple, incidentes. Je prends quelqu'un qui a été cité plusieurs fois là, ces 2 jours. Cécile Portier, qui est une fille qui est énarque, qui a été administratrice de la BNF, etc., et qui, en gros, a tout plaqué pour écrire et lâcher des choses comme ça. Enfin, ça n'a pas d'importance. Là, au moins, mais ça explique qu'elle est marquée petite racine, donc on trouve portier écrit à l'intérieur, comme ça, plus ou moins, vague anagramme à l'intérieur de ça, mais a priori, son nom de haut fonctionnaire, vous voyez, il va mettre site d'écriture, comme si nous-mêmes, est-ce que moi je dirais site d'écriture? Non, jamais. En plus, qu'est-ce qu'elle écrit? Des séries sur les mains qu'elle photographie, etc. Mais pour bien montrer que c'est pas elle dans la vie civile, etc. Mais au moins, elle est chez elle. Par contre, prenant deux sites qui sont Claro, qui est un de nos traducteurs principaux, et qui en même temps ici fait un site où à la fois, donc, il travaille en permanence sur son travail de traducteur, en permanence sur des auteurs qui tue, et en même enfin des auteurs qui pour lui sont importants et donc là une activité revendiquée de médiation, il faut venir, un machin comme ça, une nuit debout, il y a rendez-vous à tel endroit ici, ça c'est Arnaud Bertina dont je parlais tout à l'heure, et puis en même temps un site qui est un succès aussi considérable, enfin mon succès on s'en fout, mais c'est un des seuls à attaquer, à se prendre comme ça, à démonter la langue de toute la daube littéraire et tout ça. Claro, on n'a jamais pu lui faire comprendre qu'il fallait qu'il sorte à Blogspot et au Québec en plus. Oui, Blogspot, c'est que c'est un truc. Ben ouais, mais, et qu'un jour, il fallait que la première chose, y compris pour l'archivage, soit de s'approprier son propre truc et de se payer un nom de domaine et tout ça. Bon, je suis pas, là, je vais juste passer très très vite. Les discussions qu'on avait nous sur les questions de Drupal, voilà, cette fille là qui était avec nous au Second Cup tout à l'heure, Candice Nguyen, voilà, ça ressemble pas tellement à celle que tu as vue au Second
Non,
Cup,
mais...
tu vois. Où là on est sur un travail de WordPress et en même temps la capacité, enfin, l'art graphique de la mise en page. La question de l'arborescence qui va se déplacer, c'est-à-dire à mesure que je vais dans un article, là récent, je vais retrouver une autre organisation de la marche et des propositions contextuelles de navigation qui sont faites, où à partir du moment où là, l'image va être première, et même si elle est au Groenland ou là qu'elle revient de Louisiane, elle aussi, c'est le truc comme ça, mais l'intégration du son se fait aussi directement à même le texte, et qu'en même temps, on a. Comme chez Karl, à la fois un travail comme ça permanent de citation, mais donc qui évidemment est complètement illégitime ici au regard des droits d'auteur, et là la citation, pardon, après ce truc-là, et là elle me fait mentir parce qu'il n'y a pas de texte à elle, alors qu'elle écrit énormément dans ses blogs et tout ça. Par contre, pour moi, ce qui est très truc comme ça qui m'ébahit à chaque fois, pour nous, dans notre petit milieu blog, cette Candice Nguyen est une espèce de pilote comme ça dans les modèles comme ça de navigation, d'exploration photo, son, image. Et en même temps, comme elle n'est pas auteur et qu'elle n'a jamais publié, bah, elle ne fait pas partie de ceux qu'on considère autrement, mais ça n'a pas d'importance. Mais c'est juste. Ouais, le reste, c'est des questions, puis maintenant, il est temps que j'arrête et qu'on parle ensemble. J'avais sélectionné, enfin, vous connaissez ce truc auto-fictif, hein, tous, je pense. Donc, Chevillard, donc, il en est à son 2966e billet quotidien. Ce qui ne veut pas dire qu'il les écrit tous les jours. En général, il en fait 3 ou 4 d'avance. Il les programme pour être publiés à minuit et ils sont toujours publiés sous forme de triptyque, avec très souvent comme ça des séries qui s'organisent évidemment à l'intérieur. Et puis, chaque fois qu'il a une petite fille, enfin, ça lui est arrivé que 2 fois. Bon, par exemple, en ce moment, c'est vrai que Suzy fait beaucoup d'appropriation de langage, c'est magnifique. Par contre, la plus grande, elle est beaucoup plus sage et elle se méfie, et donc on la voit moins dans le truc. Par contre, Eric, une fois par an, rassemble ses trucs, les publie non pas chez Minuit, qui est son éditeur principal, avec des livres qui sont pour moi un petit peu rhétoriques, et qui sont pour nous tous, à quel moment, quand on parle Chevillard maintenant, l'œuvre de Chevillard, c'est le blog, et puis ses livres chez Minuit. Mais je ne le dirai pas publiquement, évidemment, avec Gilles Bonnet dans le coin. Mais en même temps, ce peintre-là, à chaque fois que son livre est publié, il efface les billets correspondant au livre. Ce qui fait que dans le site, non seulement il n'y a pas de commentaires, il y a des trucs comme ça, mais lui n'est sur aucun réseau, mais il y a quelquefois ces informations concernant sa vie professionnelle, et là, l'espace de la médiation qu'il intègre comme ça dans son truc direct, mais l'archivage et l'indexage n'est ni considéré comme important, et en tout cas remis complètement à... les autres questions aussi pour moi et pour aller très vite aussi sur ces trucs-là, à quel moment, mais c'est cette histoire de l'image, pour moi c'était vraiment important. Je pense que c'est un chantier qu'on est juste en train d'attaquer, ces trucs de comment partir, d'écrire la littérature selon des nouveaux paradigmes, et que pour se séparer des paradigmes du livre, ben, s'ancrer comme ça dans d'autres pratiques. La question, nous on parlait là, l'UDEM, de rétro-éditorialisation, j'arrive presque à le prononcer comme ça. Comment voulez-vous travailler? Moi j'enseigne en école d'art, bon, on est un peu aussi des bricoleurs de l'enseignement, mais dans la mesure où les droits ne nous permettent pas d'utiliser les grands qui nous aident à écrire. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez trouver de Michaud sur Internet? Si vous faites quoi que ce soit sur Artaud, le petit neveu, ça va s'arrêter en 2018. Ça va lui chier sur la gueule, je vous assure, le 17 juillet 2018, il y aura un internet tout Artaud, on est tous prêts, ça va faire mal. Mais ouais, mais on en crève, quoi. C'est des lettres recommandées, ces trucs comme ça. Mais qu'est-ce que vous trouvez sur Beckett? Qu'est-ce que vous trouvez sur Perec? Qu'est-ce que vous trouvez sur Gracq? Non, vous avez Goldsmith qui fait ce site historique UbiWeb, mais vous savez que le Goldsmith l'héberge au Mexique, pour être protégé des poursuites. Et là, si vous, donc, j'ai tapé Michaud sur truc comme ça, et là, sur Michaud, vous avez, ben, en même temps, pas grand-chose. Mais en même temps, on va trouver, pour moi, un truc comme ça qui est fondamental dans l'enseignement. C'est après ces trois livres sur Mescaline et tout ça, Misérable miracle, connaissance du gouffre, il y a ce film d'une demi-heure qui est où il écrit ce film de ses expériences de drogue, etc., avec son texte en voix off. Et pour moi, c'est des objets aussi. Est-ce qu'on était capable, en 64, de savoir l'importance de tels objets? C'est-à-dire de choses linéaires. 34 minutes de Michaud, qui sont 40 pages dans la Pléiade, où il y a qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce que je veux comme image. Donc il décrit le film seconde par seconde. Et c'est un texte canonique, et en plus un texte qui se réfère aux trois livres qui ont été publiés avant. Là, on va l'entendre, sa voix off, j'espère. Pareil, vous le retrouverez ultra facilement. La question pour moi, c'est ça aussi, cette question de rétro-éditorialisation. J'arrive encore mieux à la force à m'entraîner. En quoi, aujourd'hui, lire, enseigner Michaud, écrire nos propres objets transmédia, suppose d'aller relire Michaud différemment à partir de, par exemple, là, cette écriture pionnière, comme ça, de films, même avec voix off. Laisse tomber un petit peu le reste. Ouais, on arrête.